E-Radio, l'invité de la rédaction, Romain Lostis.
Marie Toussaint, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ici au Parlement européen à Strasbourg. Merci d'avoir accepté notre invitation
pour
cette émission sur E-Radio. Dans ce contexte de préparation des élections européennes, ça y est, nous avons dépassé. Nous sommes à moins de 100 jours du scrutin. Marie Toussaint, vous êtes députée européenne française, membre du groupe des Verts et aussi candidate pour les élections européennes.
Oui, exactement.
Donc chef de file des
écologistes. Pour les écologistes,
français.
Tout à fait.
Merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Alors moi, il y a un sujet sur lequel j'aimerais revenir avec vous, sujet qui fait un peu parler de lui cette semaine, c'est celui de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises multinationales. Un texte censé s'attaquer à la pollution générée par certaines entreprises, multinationales notamment, mais aussi censé s'attaquer à des violations de droits humains, comme par exemple le travail forcé. Alors pour rappeler à nos auditeurs de quelles entreprises plus précisément parle-t-on ici, ce sont des entreprises européennes qui commettent ces méfaits-là à l'étranger, c'est ça ?
Pas seulement. Ce texte concernerait, en effet, s'il était adopté, ce qui est difficile, on va y revenir, mais concernerait toutes les entreprises européennes qui comptent plus de 500 salariés, hormis des secteurs spécifiques où on a élargi le nombre d'entreprises concernées, par exemple dans les mines, mais concernerait aussi plus largement toutes les entreprises européennes qui placent des produits sur le marché. Donc en réalité, ce que ça voudrait dire, c'est qu'on garantirait aux Européennes et aux Européens que quand ils se lèvent le matin, qu'ils prennent leur petit déjeuner, que quand ils achètent le matériel scolaire de leurs enfants, que quand ils achètent leurs cadeaux de Noël ou tous leurs biens de consommation courante, eh bien, les biens dont ils font l'acquisition n'aient pas contribué au travail forcé, au travail des enfants, à la maltraitance des ouvrières du textile, par exemple, on se souvient du Rana Plaza, ou encore à des activités qui auront détruit l'environnement, qui auront porté atteinte au climat. C'est ça l'enjeu de ce texte-là. Et au fond, ce que ça veut dire, c'est que l'Europe considérerait enfin que la question de la civilisation de l'économie, de la recivilisation de l'économie, est une question centrale. Considérer que on a besoin de reprendre en main notre économie, de ne pas se laisser aller comme un renard libre dans un poulailler libre, et que dans la réalité, on peut changer l'économie.
Parce que pour l'instant,
on peut le faire.
Ces entreprises-là ne sont pas condamnées lorsque...
Elles ne sont pas condamnées. On a quelques petits textes quand même qui existent dans le droit. Par exemple, sur les diamants. Tout le monde se souvient de ce grand film avec Leonardo DiCaprio. Donc il y a des règles qui ont été mises en place de façon sectorielle. Mais rien qui ne concerne l'intégralité de l'économie européenne. Or, on sait que dans des secteurs, je reviens sur la question du textile, mais des secteurs majeurs, aucune règle soit n'existe, soit n'est appliquée concrètement.
Alors la directive dont on parle, je crois qu'elle a déjà été proposée par la Commission depuis 2020. Donc elle vise à mettre en place un devoir de vigilance. De quoi s'agit-il concrètement ? Comment s'exprimera ce devoir de vigilance ?
L'idée, c'est vraiment que pour chaque produit, encore une fois, qui arrive sur le marché européen, on s'assure que d'un bout à l'autre de la chaîne de production et de valeur, il n'y ait pas d'atteinte aux droits humains. Donc ça va de... On va chercher des matériaux critiques dans les sous-sols du Chili, on a produit des vêtements et des chaussures dans des grandes usines indiennes, ça arrive sur le marché européen dans des conditions où, d'un bout à l'autre de la chaîne, on doit respecter les libertés syndicales et les droits humains, on doit respecter des normes minimales en matière sociale et on doit faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'atteinte démesurée à l'environnement ou au climat. Très concrètement, les entreprises... comme elles le font en France aujourd'hui pour les plus grandes d'entre elles, réalisent ce qu'on appelle des plans de vigilance. Ça peut paraître des termes un peu barbares, mais des plans dans lesquels elles doivent analyser l'ensemble des impacts de leurs actions et des impacts à venir de leurs actions sur les droits humains, les droits sociaux, l'environnement et le climat. Et une fois qu'elles ont effectué cette analyse, elles doivent détecter quels sont les impacts. Et lorsqu'il y a des impacts négatifs, tout faire pour y remédier et donc changer leur stratégie. Si je vais au bout, et c'est là où on comprend le potentiel révolutionnaire de ces textes s'ils allaient au bout, ce que ça voudrait dire, c'est qu'une entreprise comme Total, qui veut encore déployer les énergies fossiles devant elle, devrait calculer l'impact que cela aurait sur le climat mondial et donc, dans la réalité, s'arrêter tout de suite de faire des énergies fossiles parce que le climat ne peut plus supporter qu'on déverse encore du CO2 dans l'atmosphère.
Parce qu'il y a un autre texte qui est déjà adopté et en passe d'être mis en œuvre, c'est la directive CSRD, directive européenne, qui, elle, oblige les entreprises à déclarer leur impact environnemental et social. Mais là, avec le devoir de vigilance, ça va plus loin. Est-ce qu'il y a une contrainte pour changer de comportement, finalement, c'est ça ?
Effectivement, on a adopté en début de mandature un texte sur la gouvernance des entreprises. Les termes CSRD sont un acronyme en anglais, voilà, mais c'est sur la gouvernance. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on a demandé aux entreprises, c'est de faire la transparence sur un ensemble d'indicateurs, là encore, liberté syndicale, sociale et environnementale, et de rendre cela disponible au public pour que le public puisse savoir comment les entreprises se comportent. Le devoir de vigilance va un cran plus loin. La gouvernance des entreprises est un préalable à ce qu'on puisse faire le devoir de vigilance, puisque le devoir de vigilance impose des obligations d'action très concrètes pour réduire ses impacts. Sur la gouvernance des entreprises, c'est déjà important, parce que quand on va aller rechercher, et je suis juriste, en plus d'être eurodéputée, quand on va aller rechercher la responsabilité des entreprises, on a besoin de s'appuyer sur des éléments concrets. Et c'est vrai que c'est ce à quoi jouent notamment les multinationales aujourd'hui, c'est de dire « mais je n'ai pas déversé des produits toxiques dans tel désert, et je n'ai pas déversé tant d'autres dans telle mer, parce que ça n'apparaît nulle part. » Voilà. Ce que j'aimerais que vos auditeurs et vos auditrices comprennent, c'est que tant la loi sur le devoir de vigilance que sur la gouvernance des entreprises ne faisait pas partie du pacte vert. Ce sont deux législations qui sont directement issues d'une aspiration des citoyennes et des citoyens. Lorsqu'ils ont voté le 26 mai 2019 pour élire leurs députés au Parlement européen, ils ont élu des députés qui, dès que nous sommes arrivés dans cet hémicycle, avons demandé à ce que des textes viennent reprendre en main l'économie.
Et pourtant, c'est la Commission européenne qui propose les lois.
Oui, mais du coup, nous avons fait ce qu'on appelle des rapports d'initiative. Nous nous sommes battus, nous avons organisé beaucoup d'auditions, avons reçu les ONG, les entreprises aussi, parce qu'un grand nombre d'entreprises sont en faveur de ces textes-là, parce qu'elles veulent bien faire et qu'elles ont besoin que les autres fassent bien aussi pour préserver leur compétitivité, tout simplement. Et que, du coup, ça a été vraiment une demande du peuple. Une demande du peuple. La Commission européenne a été obligée d'y céder, mais elle nous avait annoncé, suite à notre rapport d'initiative, une date sur le devoir de vigilance, une date qui a été reportée de 9 mois. Pourquoi ? Eh bien parce que les lobbies, ces entreprises-là qui ne voulaient pas justement aller vers la transparence ou vers les obligations, se sont battus, mobilisés pour que le texte ne sorte pas, pour qu'il sorte plus tard, pour qu'il soit affaibli. Et on est toujours aujourd'hui, à l'heure actuelle, au moment où ce texte, après 4 ans et demi de travail, est encore en danger et n'est pas encore, dont l'adoption n'est pas encore acquise, dans cette bataille entre l'intérêt général, l'aspiration du peuple et le travail des lobbies qui font tout pour saper toute obligation contraignante qui pourrait s'imposer à eux.
Alors justement, sur cette chronologie, donc moi j'ai vu que le Parlement européen avait adopté sa position officielle sur le texte de cette directive sur le devoir de vigilance en juin dernier. Puis en décembre 2023, c'était toutes les institutions de l'Union européenne qui s'étaient mis d'accord après des négociations sur une version soi-disant finale du texte. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui finalement ? Parce qu'il y avait un vote aujourd'hui, en quoi cela consistait-il ?
Aujourd'hui, on est en situation de blocage. On est en situation de blocage et je vais élargir un peu le sujet. Le pacte vert avait une volonté de rehausser les ambitions environnementales sans toucher au modèle économique. D'où le fait que le Parlement ait dû se battre pour obtenir ces deux textes sur la gouvernance et le devoir de vigilance.
Parce que le pacte vert, pour rappel, c'est la neutralité carbone pour tout le continent d'ici à 2050.
Voilà, mais ce sont des ambitions environnementales. Or, si on veut pouvoir... Vous savez, on dépasse 6 des 9 limites planétaires telles qu'élaborées par les scientifiques. Ces seuils sur le CO2, la biodiversité, le climat, la pollution de l'air, de l'eau. Et donc, on dépasse 6 de ces seuils-là. Mais si on veut revenir dans le cadre de ces limites planétaires, eh bien, il faut changer l'économie. C'est l'économie qu'il faut remettre dans son lit, parce que c'est comme un fleuve qui aurait débordé de son lit aujourd'hui. Et ces deux textes-là qui ont été arrachés par le Parlement ne faisaient pas partie de ces ambitions de la Commission européenne. Or, sur quoi est-ce que nous achoppons aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous vivons une attaque en règle des droites, sur l'impulsion de l'extrême droite, un front du refus de la transition contre les politiques environnementales. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'au fond, ce que les forces économiques en présence redoutent le plus, et elles sont défendues ici dans l'hémicycle par les droites, les extrêmes droites, comme au Conseil européen. Ce que les forces économiques redoutent le plus, c'est un changement, une transformation du modèle économique. Or, évidemment, si on veut aller vers un monde avec plus d'écologie, plus de respect des droits humains et des droits sociaux, il faut transformer cette économie. Et donc, pour en revenir au texte sur le devoir de vigilance, il est aujourd'hui bloqué, parce que contrairement à ce qui se passe d'habitude, quand le Parlement et le Conseil négocient un texte et tombent d'accord, normalement, après, c'est une formalité qu'il soit adopté. On passe en hémicycle, on vote pour, on passe au Conseil, on vote pour, puis hop, c'est parti.
C'est la procédure,
c'est publié au journal officiel ordinaire. Et c'est parti. Il se trouve que ces derniers mois, les textes ont été remis en cause par des États membres après les négociations. Et c'est un peu du jamais vu dans l'Union européenne. Ça a commencé par l'opposition de l'Allemagne sur les moteurs thermiques il y a à peu près un an. Et puis ça s'est déployé. Emmanuel Macron a utilisé cet outil, par exemple, sur la directive sur les travailleurs des plateformes. Et aujourd'hui, on a plusieurs États qui, après les négociations, ont remis en cause le texte sur le devoir de vigilance. Encore une fois, afin de pouvoir défendre un modèle économique qui pourtant va totalement de travers, qui ne permet ni de lutter contre la pauvreté, ni de préserver la planète.
Donc ça veut dire que la Commission propose une loi débattue au Parlement, débattue au Conseil des États, les institutions se réunissent, se mettent d'accord sur une version finale du texte,
et en fait c'est pas fini.
Oui, et après la fin des négociations, finalement reviennent sur leurs paroles.
Exactement.
Et refusent. C'est quoi l'intérêt des États membres de faire ça ?
Ah bah, y a des intérêts nationaux, économiques, importants. Vous voyez, par exemple, la France s'est positionnée, dans le cadre des négociations avant l'échec, s'est positionnée de sorte à exclure le secteur bancaire, le secteur financier dans son ensemble, des obligations qui ont été établies. Pourtant, les banques, par exemple BNP Paribas, financent encore beaucoup les énergies fossiles ou des activités qui mènent à la déforestation dans le monde. Bon. Et il se trouve que les plus grandes banques, en tout cas le plus fort secteur bancaire de l'Union, est français. Donc la France s'est positionnée pour défendre ses fleurons nationaux.
La France a obtenu que ce secteur financier
soit exclu,
épargné, n'ait pas besoin de respecter le devoir de vigilance.
Exactement. Et puis la France s'est aussi battue pour que sur le climat, il y ait une obligation de mettre en place des plans de vigilance, mais pas de responsabilité civile derrière. Et donc ça, qu'a la France derrière la tête ? La préservation des intérêts de Total Energy. Ça a été un peu différent en Allemagne. En Allemagne, ça va être BASF, ça va être Bayer Monsanto. Et donc l'Allemagne s'est battue dans le cadre de ces négociations pour exclure la responsabilité civile en matière environnementale cette fois. Et donc là, les États se retrouvent autour de la table. Je vous ai parlé de l'attaque que les droites, dans leur ensemble, mènent contre toute politique écologique et de justice. Et l'Allemagne en premier, les libéraux allemands, les centristes allemands qui appartiennent à la coalition ont dit « mais attendez, nous on ne veut pas que les entreprises soient contraintes de respecter toutes les règles qui sont comprises dans cette directive-là ». Donc l'Allemagne a changé de position, elle est passée de pour à l'abstention, ça a ouvert la voie à d'autres de défendre leurs propres intérêts. Donc hier soir, on a appris que Bercy, en particulier, avait défendu un changement de seuil, donc du nombre d'entreprises concernées. Et là où la loi européenne voulait concerner toutes les entreprises de plus de 500 salariés, eh bien Bercy a défendu une position à 5000 salariés, c'est-à-dire ce qui est inscrit aujourd'hui dans la loi française, donc en refusant d'aller plus loin. Alors on ne connaît pas encore, puisque ces négociations entre les États ne sont pas totalement transparentes, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on ne sait pas encore quelle position exactement la France a tenue dans la réunion d'aujourd'hui. En tout cas, on sait que Bercy a contribué à jeter le doute sur la solidité de cette directive. Et puis, voilà, on apprendra au fur et à mesure quelles ont été les positions exactes des États. Mais c'est sûr qu'il y a un enjeu de la part des États de défendre leurs fleurons nationaux et, encore une fois, de surtout ne pas changer de modèle économique.
Qu'est-ce qui a changé, finalement ? Parce qu'en décembre dernier, on a la France ou l'Allemagne ou l'Italie qui ont accepté de dire oui à ce texte à la Commission européenne et au Parlement européen. Puis deux mois plus tard, ils font volte-face. Comment expliquer ce changement ? Pourquoi dire oui et le lendemain non ? Alors que le texte n'a pas changé, en soi. La version du texte est restée la même.
La logique voudrait que les États continuent à soutenir le texte. Je suis bien d'accord avec vous. Il faut comprendre qu'on s'approche des élections européennes, qu'on rentre dans une séquence électorale qui est cruciale et que la façon dont ce qui sortira des urnes, en fait, le 9 juin 2024, aura un profond impact sur l'Europe. Soit l'Europe devient le continent du recul en arrière social et environnemental, parce que c'est exactement ce que les droites sont en train de défendre aujourd'hui, soit elle continue et même elle accélère la transition écologique, en particulier si les écologistes font un bon score, ce dont on a absolument besoin, parce que sans écologistes, il n'y aura plus de politique de transition. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, cette velléité de transition, elle repose sur transformation profonde de notre modèle économique. Ça veut dire que ce ne sera pas les mêmes actionnaires qui gagneront de l'argent demain par rapport à ceux qui gagnent de l'argent aujourd'hui. Ce ne seront pas les mêmes entreprises familiales comme Lactalis ou Bolloré qui gagneront de l'argent demain. Ce sera d'autres. Et donc, on a une très très forte résistance de ces pouvoirs qui, à l'approche des élections européennes, se durcissent et refusent toutes les politiques écolo, mais aussi toutes celles qui, sur les entreprises en particulier, pourraient changer le rapport de force en vigueur. On a aujourd'hui une véritable prime au vice dans l'économie. Moins on fait bien les choses, plus on gagne d'argent. Et ce vers quoi il faut aller, c'est plutôt une prime à la vertu, c'est-à-dire faire en sorte que ces entrepreneurs qui souhaitent protéger la nature et prendre soin des gens, eh bien, soient favorisés dans l'économie, en tout cas qui est celle que nous, les écologistes, souhaitons développer. Donc une très très forte résistance dans un contexte électoral particulièrement tendu, et j'ai coutume de dire que ces élections seront peut-être les plus importantes pour l'avenir de l'Union européenne et même l'avenir de l'humanité depuis la chute du mur de Berlin.
Donc, pour revenir à ce texte sur le devoir de vigilance, donc à l'issue de ce vote du 28 février 2024, les États membres ne se sont toujours pas mis d'accord sur un texte. Il n'y a donc pour l'instant pas de directive sur le devoir de vigilance. Quelles vont être les prochaines étapes finalement ? Est-ce qu'il y aura d'autres possibilités, d'autres options de voter pour ce texte ? Est-ce qu'il va revenir au sein de l'hémicycle du Parlement européen pour être encore débattu pour une future nouvelle version ? Ou est-ce que le texte est définitivement enterré ?
Le texte n'est pas définitivement enterré et tout est encore possible. Ceci étant dit, on ne sait pas quand ni comment. Les États et la présidence belge du Conseil a fait le choix de ne pas organiser de vote qui soit justement trop définitif, en espérant pouvoir encore trouver un compromis. Si, ce qui semble apparent, il n'est pas possible de tomber d'accord sur le texte issu des négociations, alors la première option est qu'on le transforme, qu'on le change. Il est encore possible, dans le cadre de cette mandature, que ça arrive. Dans les 15 jours, les ministres des États peuvent voter sur une autre version qui reviendrait alors dans l'hémicycle et nous aurions alors le choix d'entériner la nouvelle version ou de la rejeter. On ne peut pas recommencer tout le processus en rouvrant le cycle de négociation, en tout cas pas dans le cadre de cette mandature. Si aucune décision n'est prise dans le cadre de cette mandature, alors évidemment, le sujet peut continuer, les négociations peuvent continuer dans la mandature d'après, ce qui permettrait de retravailler le texte, de le reprendre, et on a déjà vu, dans d'autres cas, des textes rester sur la table des négociations pendant 9, 10, parfois même 15 ans. Donc ça arrive aussi. Puis il y a une troisième possibilité, qui est que le Conseil finalement vote contre ce texte, que peut-être qu'au Parlement, ça me semble assez improbable, mais ça se retourne que ça vote contre ce texte, que dans ce cas-là, ce texte soit effectivement définitivement enterré, a fortiori si ce sont les forces de la régression qui l'emportent le 9 juin 2024.
Marie Toussaint, peut-être une dernière question. Selon vous, selon votre opinion personnelle, vaut-il mieux, ou plutôt est-ce une bonne chose que ce processus se prolonge, continue encore ? Vaut-il mieux un texte toujours plus affaibli mais quand même adopté, ou pas d'adoption tout court ? Parce que cette semaine, il y a par exemple aussi le texte sur la restauration de la nature qui a été adopté dans une version moins ambitieuse que l'ambition de départ. Est-ce que vous êtes satisfaite par exemple, pour faire une comparaison de cet autre cas ? Là, il y a eu adoption, mais pour un texte affaibli. Pour le devoir de vigilance, pas d'adoption, mais peut-être toujours des espoirs aussi forts pour le texte futur. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ?
Parfois, ne pas perdre, c'est déjà une victoire. Et si on adoptait une législation sur le devoir de vigilance, même un peu affaiblie, attention, ça dépend de niveau, hein, mais même un peu affaiblie par rapport à ce qui est aujourd'hui sur la table, ce serait déjà une victoire. A fortiori, parce que ça permet de mettre un pied dans la porte, et puis après, ce qu'on écrit dans les textes, c'est aussi qu'ils doivent être révisés, qu'il doit y avoir de nouvelles études d'impact, que peut-être on pourra aller plus loin. Et donc le combat continue, même avec le texte actuel, finalement, pour pouvoir l'élargir au secteur financier, remettre de la responsabilité civile, améliorer encore l'accès à la justice pour les victimes, la prise en compte des droits des peuples autochtones, par exemple. Donc dans tous les cas, on a besoin que ce texte soit adopté et on a besoin que la société civile, que ce soit les ONG ou les entreprises, continuent à se mobiliser pour aller plus loin et pour porter une vraie volonté de transformer l'économie pour la rendre vraiment plus vertueuse, la réencastrer dans les limites planétaires et la mettre au service de la santé et du soin des populations, de la lutte contre la pauvreté, de l'égalité femmes-hommes, des libertés syndicales. Voilà, on peut encore aller plus loin si on se mobilise toutes et tous ensemble.
Vous, Marie Toussaint, vous faites partie d'un groupe transpartisan qui milite depuis longtemps activement à l'adoption de cette directive. Si nous allons vers une nouvelle législature européenne, si vous en faites partie, est-ce que vous continuerez à agir pour l'adoption de ce texte ou est-ce que vous préférerez mobiliser vos efforts sur d'autres chantiers plus importants ?
Bien sûr, il faut absolument se mobiliser pour ce texte. Vous avez parlé d'une mobilisation transpartisane. C'est de toute manière seulement comme ça qu'on emporte des victoires au Parlement européen. On ne peut pas travailler tout seul dans son coin. Ça n'existe pas. Et c'est vrai que ce texte, si on l'a obtenu, c'est grâce à une mobilisation de l'ensemble de l'hémicycle gauche, voilà, mais aussi de l'appui de certains libéraux et même de certaines personnalités de droite. Je pense notamment à la Finlandaise Sirpa Pietikäinen qui s'est battue avec nous, mais aussi une mobilisation conjointe avec les parlementaires nationaux de différents États membres. Donc on a par exemple récemment publié une tribune avec Dominique Potier, qui est un député qui a beaucoup porté ce sujet à l'Assemblée nationale, avec Marie Pochon, une députée écologiste qui travaille aussi sur ces enjeux. De toute manière, c'est quand on porte des combats ensemble, de façon transpartisane, mais aussi trans-niveau, trans-échelon, au niveau européen, qu'on emporte les plus belles et les plus solides victoires. Voilà. Et donc, je sais que non seulement nous pourrons continuer dans la prochaine mandature, mais qu'en plus de ça, nous avons déjà encore, et même pendant notre période électorale à nous, des députés, des sénateurs à travers les États qui continuent à se battre pour qu'on puisse aller de l'avant.
Merci beaucoup,
Marie-Christine,
pour votre participation à cette émission sur Euradio. Merci à toutes et à tous pour votre attention.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.